Alors, donc bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas encore vu. Nous sommes ici au cœur des fêtes de Sainte Marguerite Marie et nous reprenons ce parcours de la vie de Sainte Marguerite Marie. Nous avons vu dans un premier enseignement toute l'enfance de Marguerite Marie, de son désir, de son vœu de perpétuelle chasteté à 5 ans jusqu'à son entrée au monastère à 24 ans, comment le Seigneur l'a guidée, comment il l'a préparée, comment il a aussi aidé à poser ce choix de la vie religieuse. Et puis après, nous avons eu un deuxième enseignement sur, j'ai envie de dire, le noviciat, enfin tout le discernement de Marguerite Marie au cœur du monastère, avant sa prise d'habit et avant ses vœux. Et alors, nous rentrons donc d'une certaine manière maintenant dans le cœur du sujet, et j'ai la joie d'avoir 20 verbes pour 45 minutes. Donc, contrairement à hier, je vais faire une sélection, je vais pas vous faire les 20 verbes, je vais choisir quelques verbes parmi tous ceux-là, et on va essayer de voir, donc je vais faire quelques sauts aussi dans la vie de Marguerite Marie, mais sûrement que j'aurai d'autres occasions pour les enregistrer ou pour les permettre de les faire connaître, peut-être l'année prochaine aussi, à d'autres moments, peut-être sur Radio Espérance aussi, qui diffuse régulièrement nos enseignements, et prier pour que ça puisse aussi être facilement diffusable, voilà, si Dieu le veut. Donc, je voudrais revenir d'abord sur, après ces vœux définitifs de Marguerite Marie, sur cette mission que le Seigneur lui demande, cette mission de sanctification. Dieu veut sanctifier. Et donc, pour vivre cela, il lui présente deux types d'appels à sanctifier. Il parle de la sainteté de justice et la sainteté d'amour. On l'a évoqué un peu hier, mais j'aimerais revenir parce que c'est un peu le cœur de sa mission qui est souvent mal comprise. Et il est beau, je pense, en ce temps, de réentendre aussi l'appel à la sainteté de justice qui correspond profondément à ce que nous vivons, notamment en ce moment dans l'Église. Et donc, je reprends ce thème. Je commencerai par une petite citation de Marguerite Marie. « Seulement, je dirais qu'il me fit voir en lui deux saintetés, l'une d'amour et l'autre de justice, toutes deux très rigoureuses en leur manière, et lesquelles s'exerceraient continuellement sur moi. » Donc, je vous l'expliquais hier. Donc, Marguerite Marie, dans sa vocation de cloîtrée, non seulement est là pour vivre cette union à Dieu, se donner sa vie au Seigneur, mais comme tout moine, comme tout chartreux, comme toute vocation retirée, ils sont aussi là pour intercéder pour le monde. Une fois, j'avais rencontré un jeune novice qui me disait « Ah, je suis content, là, ça y est, je suis loin du monde, je peux être tout à Dieu et tout ça. » Je lui dis « Peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'il entende aussi qu'il y a un appel. Au cœur, si je me retire, c'est aussi pour être tout au monde. » Et donc, Marguerite Marie va recevoir notamment cette mission de porter cette sainteté de l'Église, sainteté d'amour et sainteté de justice. Alors, je l'ai défini hier, la sainteté d'amour se définit davantage pour tous les pécheurs, ceux qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et va s'exprimer notamment par la première apparition. Dans la première apparition, Jésus montre comment il appelle Marguerite Marie en la reposant sur son cœur, en prenant son cœur, en embrasant son cœur, et bien être témoin, instrument de cet amour pour tous ceux qui sont loin. Il veut embraser le cœur des hommes et des femmes autour d'eux. Alors, on pourrait reprendre ce texte, notamment du Deutéronome, qui nous aide à le comprendre. « Je te propose vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie. » Voilà, Jésus veut donner la vie à chacun d'entre nous et à tout homme. Et alors, pour vivre cela, pour qu'elle puisse vivre cette vocation, cet appel à être témoin et à sanctifier Dieu dans cette sainteté d'amour, Jésus va demander à Marguerite Marie son cœur. Voilà ce qu'il dit. Jésus me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise. D'où le retirant comme une flamme ardente, en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris, c'est-à-dire dans son cœur. Donc Jésus fait une petite opération chirurgicale, Marguerite Marie est d'accord, il prend son cœur, il plonge son cœur dans son cœur qui est comme une fournaise ardente, puis après il lui dit « je te rends ton cœur, ça peut quand même te servir », et donc il lui remet ce cœur dans son côté. Et Jésus lui dit « voilà ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes, pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment. » Alors, voyez, Marguerite Marie, va avoir cette expérience de ce cœur. Elle est invitée à être enflammée du cœur de Jésus et avoir le même cœur que le cœur de Jésus. Voilà. Et comment est le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus est transpercé. Et au fond, ben, Jésus va demander à Marguerite Marie d'avoir un cœur transpercé. Alors tout de suite, alors, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ils n'ont pas eu tout le décryptage du vocabulaire que j'ai fait dans les deux premiers enseignements, hein, et notamment le décalage entre ce que Marguerite Marie entend par souffrance et ce que Jésus entend, parce que Marguerite Marie entend par sacrifice et ce que Jésus entend par sacrifice. Donc si vous arrivez, vous allez avoir du vocabulaire qui va vous faire peur, mais derrière, vous réécouterez les anciens enseignements et le décryptage que j'ai fait derrière. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le cœur transpercé? Est-ce que c'est un transpercement physique du cœur de Marguerite Marie? Eh bien, dans l'Évangile, on voit que Jésus est saisi dans ses entrailles devant les foules. Et pour le Christ, ça va jusqu'au transpercement du côté sur la croix. Comment Marguerite Marie et comment nous-mêmes, eh bien, nous pouvons nous laisser saisir à notre tour? Comment on peut se laisser transpercer le cœur de compassion pour les foules? Nous avons fait une neuvaine cette année, pour l'année Je me consacre, en contemplant un peu comment Jésus est saisi de compassion. Il y a plein de situations dans l'Évangile où il est saisi de compassion. Il est saisi de compassion pour les foules parce qu'ils n'ont rien à manger. Il est saisi de compassion aussi par les foules parce qu'ils n'ont personne pour les enseigner. Il est saisi de compassion parce qu'ils n'ont pas de pasteur pour les guider. Voilà, le Seigneur nous invite à être saisi de compassion. Alors ce cœur transpercé, on le retrouve notamment dans les Actes des Apôtres. Alors, petit exercice pratique, je vais le faire moi-même. Vous allez regarder vos téléphones et vous allez regarder si le Bluetooth est en place. Et si vous avez votre Bluetooth en place, vous allez le couper parce qu'il est peut-être connecté avec la sono et du coup, c'est pas très agréable, en fait, d'entendre ce petit bip. Donc voilà, pour qu'on puisse peut-être... Je suppose que c'est un bip comme ça qui peut faire que ça sonne. Vous n'hésiterez pas à faire de couper ce moment pour ceux qui sont sur Radio Espérance. Alors, dans les Actes des Apôtres, nous entendons ce récit. Pierre, après la Pentecôte, fait le grand récit et les foules qui l'entendent disent « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Donc, en entendant, en contemplant le cœur de Jésus transpercé, Jésus qui a donné sa vie pour les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés, la foule qui est là a le cœur transpercé et se dit « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre répond, repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors la sainteté d'amour nous invite à ce chemin de la conversion. Voyez ? Rentrer dans cet appel à aimer comme Jésus nous a aimés. Dieu nous a rendus capables d'aimer comme il aime. Près de lui, nous pouvons recueillir sans cesse et revenir sans cesse à cet appel qui est le signe même de notre dignité qui est d'aimer. Aimer ceux qui nous aiment et c'est aimer ceux qui ne nous aiment pas, non pas juger mais sauver, sauver par l'amour que nous transmettons, sauver par notre regard, par nos oreilles, par notre bouche, par notre main, sauver par notre cœur. Alors, Marguerite Marie va rentrer dans ce chemin de cette vocation d'amour et notamment le vivre dans cette intercession. Et souvent, le Seigneur lui présentera des âmes ou des personnes pour qui intercéder. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je reviens maintenant sur la sainteté de justice qui fait un peu plus difficulté. On dit quand même souvent la justice, c'était un peu plus tôt pour l'Ancien Testament. Maintenant, c'est un peu dépassé ce thème de la justice. Et pourtant, Jésus demande cette vocation à Marguerite Marie de prier et de s'offrir pour la sainteté de justice. Et alors, la sainteté de justice, comme je vous l'exprimais déjà un peu hier, elle n'est pas tant pour les pécheurs que pour les disciples. En fait, Jésus contemple ses disciples et dit à Marguerite Marie, « Eh bien, en fait, ma sainteté de justice est blessée. » Parce que, comme on le dit dans la prière eucharistique, « Il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur Dieu de l'univers. » Et est-ce que nous rendons gloire à Dieu tout le temps? Voilà, le Seigneur, en voyant certains de ses disciples, se dit « Mais il n'est pas juste, alors que je me suis livré à ses amis, que ses amis ne me rendent pas cet amour ou qu'ils ne me glorifient pas par toute leur vie. » Alors j'évoquais hier soir les trois thèmes de Saint-Claude, ou hier matin, de Saint-Claude sur le fait d'être une bonne religieuse. « Il ne suffit pas de rentrer au monastère pour être une bonne religieuse, dit-il. Il faut encore être une religieuse qui laisse le Seigneur habiter son cœur. Il ne suffit pas de quitter le monde, il faut quitter le monde pour laisser le Christ habiter en soi. » Alors, cette vocation je vous ai cité hier le texte de l'Épître aux Hébreux, justement dans Hébreux 4, on voit cette question sur le fait que nous sommes des fils, nous ne sommes pas seulement des esclaves, nous sommes des fils. Et donc il y a une relation entre le Père et le Fils, entre Dieu le Père et nous qui sommes ses enfants. Et le Père, de temps en temps, eh bien, il nous invite à devenir, eh bien, le Père aimerait être fier de ses enfants. Voyez. Alors de temps en temps, il reprend ses enfants, il les corrige pour pouvoir qu'ils puissent rentrer et devenir ce temple de Dieu, eh bien, qu'il désire ardemment. Je reprends maintenant, il faut être attentif sur la manière dont Marguerite Marie va exercer cette sainteté de justice. Et c'est là que c'est assez intéressant, encore une fois, notre chère Marguerite a besoin de se convertir. Et donc Marguerite Marie, elle veut offrir, elle est dans une époque de janséniste, alors elle offre ses activités, elle fait des sacrifices, et même des fois elle fait des choses qui nous dépassent largement. Et ce qui est très beau, c'est d'entendre que le Seigneur, de temps en temps, lui dit « Ma petite sœur, tu te trompes, c'est pas ça que je veux. » Alors je vous cite quelques textes. Ce qu'il reprenait plus sévèrement était le manquement de respect et d'attention devant le très saint sacrement, surtout dans le temps de l'office et de l'oraison, les défauts de droiture et de pureté en ses intentions, la vaine curiosité. Donc voilà ce qui blesse la sainteté de justice. D'accord ? Et quoique ses yeux purs et clairvoyants découvrent jusqu'au moindre défaut de charité et d'humilité pour les reprendre sévèrement, néanmoins, rien n'est comparable au manquement d'obéissance, soit au supérieur ou aux règles. Et la moindre réplique avec témoignage de répugnance au supérieur lui est insupportable dans une âme religieuse. Donc Marguerite Marie a fait vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Et Jésus dit, mais tu as fait vœu de chasteté ou d'obéissance. Et ce vœu d'obéissance, quand tu n'es pas dans cette obéissance à tes supérieurs, eh bien cela est pour lui un des éléments les plus forts. Et après il dit, « Tu te trompes, me disait-il, en pensant me pouvoir plaire par ces sortes d'actions et mortifications dont la propre volonté, ayant fait élection, fait plutôt plier celle des supérieurs que d'en démordre. » J'explique cette phrase. En fait, Marguerite Marie va faire des sacrifices, on l'a déjà vu hier. Elle essaie de pousser la limite de l'obéissance à sa supérieure. Et le Seigneur lui dit, « Mais en fait, toutes ces mortifications que tu fais, moi ça ne m'intéresse pas, je préfère ton obéissance à ces mortifications. » Vous voyez, à chaque fois que tu essaies de pousser l'obéissance, eh bien ça me plaît moins. « Oh, sache que je rejette tout cela comme des fruits corrompus par la propre volonté, laquelle met en horreur dans une âme religieuse. Et j'agréerai plus qu'elle prie toutes ces petites commodités par obéissance que de s'accabler d'austérité et de jeûne par sa propre volonté. » Ah, ça va vous consoler. Hein. Le Seigneur préfère qu'on mange un bon steak charolais avec les païens pendant le carême, plutôt que de dire « Ah non, 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 mais moi je vais jeûner aujourd'hui, je ne peux pas » et tout ça. Non, voilà. Eh bien, le Seigneur vous attend là. Et donc, peut-être que des fois, il faut jeûner de son jeûne. Alors, peut-être que s'il dit ça à Marguerite Marie, pour certains, il dira plutôt « Peut-être que toi, ce serait peut-être bien que tu sois plus attentif à vivre ce petit jeûne quand même, voyez ?» Mais là, vous entendez fortement cet appel, hein. Alors, ça reprend profondément aussi ce que disait saint François de Sales. Il vaut mieux faire son devoir d'État avec joie que de rechercher des austérités contraires à la volonté de Dieu ou à notre vocation. Donc, comment nous rentrons profondément pour nous qui ne sommes pas des religieux, qui n'avons pas fait vœu d'obéissance, mais aussi dans cette glorification de Dieu, dans notre devoir d'État. Et lorsqu'il m'arrive de faire par mon choix et sans son ordre ou de ma supérieure de ces sortes de mortifications et pénitences, il ne me permet même pas de les lui offrir. Il m'en corrige en m'en imposant la peine, de même que pour mes autres manquements, tous chacun desquels trouve la sienne particulière dans le purgatoire où il me purifie pour me rendre moins indigne de sa divine présence. Alors un jour elle raconte, eh bien elle fait un Ave Marie à Stella et dit « Oh, je vais en faire un deuxième pour rajouter encore. » Et Jésus lui dit, alors le premier, c'est pour moi. Et le deuxième, comme je poursuivais, il dit, voilà celle du démon que tu fais maintenant. Ça ne m'intéresse pas que tu pousses tes mortifications comme ça. Et alors on pourrait dire que cela n'est que pour Jésus, mais les âmes du purgatoire elles-mêmes, quand Marguerite Marie prie pour les âmes du purgatoire, à un moment elle dit « Stop, Marguerite Marie, là, c'est pas, ça ne nous aide pas, ça. » Une autre fois, pour les saintes âmes du purgatoire, Du moment que j'en voulus faire plus que j'en avais la permission, elles m'environnèrent en se plaignant de ce que je frappais sur elles. Cela me fit résoudre de mourir plutôt que d'outrepasser tant soit peu les limites de l'obéissance. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous comprenons dans cette sainteté de justice ? Est-ce que nous comprenons qu'il faut y aller à coup de mortification ? Ce désir que nous soyons rendus dignes, que nous glorifions Dieu par notre sainteté, hein, Dieu désire cette sainteté de ses disciples, de ses fidèles, et en même temps, quelle manière dans laquelle Marguerite Marie va y rentrer ? Eh bien, pas seulement par ses outrances, dans ses mortifications. Alors, il y a un parallèle, justement, entre les désirs de Marguerite Marie, que l'on a déjà étudié, et le désir de Jésus, qui est bien moindre. « Je suppliais, dit-elle, je suppliais souvent Jésus de retirer de moi, eh bien, les douceurs de son amour, pour me laisser goûter avec plaisir aux amertumes de ses angoisses, déréliction, agonie, opprobre et autres tourments. Mais Jésus lui répond que c'était à moi de me soumettre indifféremment à toutes ces différentes dispositions, et non pas à lui donner des lois. Est-ce que vous donnez des lois au Seigneur ? Qui est-ce qui conduit votre vie ? C'est vous qui dites au Seigneur ce qu'il doit faire, ou c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire ? Et si vous dites de temps en temps, « Seigneur, il faut qu'on y aille avec plus de force et de vigueur », Jésus lui dit, « Non, non, c'est moi qui décide. » Souvenez-vous l'épisode de sa prise d'habit, de sa profession, où il voulait être au Golgotha, et Jésus dit, « Moi, je veux que tu sois au Tabor. » « Je te ferai comprendre dans la suite que je suis un sage et savant directeur qui sait conduire les âmes sans danger lorsqu'elles s'abandonnent à moi en s'oubliant d'elles-mêmes. » Alors voyez, ce que nous n'aimons pas en général de Sainte Marguerite Marie, Jésus en général ne l'aime pas trop non plus. Donc nous pouvons relire au contraire ces textes qui nous font comprendre aussi eh bien, la manière dont Jésus veut nous aimer et dans la manière dont Jésus veut nous conduire et de demander cette grâce, vraiment de cette disponibilité eh bien, au Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Alors je vais reprendre maintenant la manière dont eh bien, Jésus va déployer, ou dont Marguerite Marie va servir le Seigneur. Ça pourrait être le troisième chapitre de cette vie de Marguerite Marie, servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur ? Comment Marguerite Marie va vivre ce service ? Eh bien, d'abord, le premier point que j'aimerais vous donner, c'est l'humilité. Voilà, Marguerite Marie est invitée à rentrer dans cette humilité. Alors, une seule fois dans sa vie, Marguerite Marie va faire un acte de vanité. Elle va se dire, au fond, je suis quand même pas mal. Une seule fois, parce que pour l'instant, dans tout ce que je vous ai montré, c'est plutôt celle qui dit toujours, vraiment, je suis rien de rien, je suis indigne, je suis un abîme d'indignité. Elle parle de l'abîme tout le temps. Et c'est là que Jésus lui dit, mais je t'ai choisi comme un abîme d'indignité. On l'a encore entendu à la louange, comme une parole de réconfort en disant, mais c'est pas parce que tu es indigne que moi, je peux pas faire mon œuvre en toi. C'est une belle parole de consolation pour chacun d'entre nous. Mais une fois, elle s'est laissée un mouvement de vanité en parlant de moi-même, à mon Dieu, ô mon Dieu, combien de larmes et de gémissements me causa cette faute. Car lorsque nous fûmes seuls à seuls, il me reprit en cette manière et d'un visage sévère. Attention, ça va. Qu'as-tu, ô poudre et cendre, de quoi te pouvoir glorifier ? Puisque tu n'as rien de toi que le néant et la misère, que tu dois jamais perdre de vue non plus que sortir de l'abîme de ton néant. Et afin que la grandeur de mes dons ne te fasse méconnaître et oublier de ce que tu es, je t'en veux mettre le tableau devant les yeux. Tu penses que tu es quelque chose ? Eh bien, regardons. Et donc Jésus a fait un petit film, après avoir imprimé. Maintenant, il est dans le cinéma, Seigneur, il présente la vie de Marguerite Marie devant elle-même, mais la vie sans la grâce de Dieu. Et alors Marguerite Marie va voir sa vie et dit « Ah là là là, Seigneur, c'est pas possible. Soit tu fais-moi mourir ou enlève ce tableau, mais ça ne peut pas continuer comme ça. » Vous voyez ? Alors, c'est étonnant parce qu'en général, c'est le contraire. C'est Jésus qui dit « Mais arrête de te sous-estimer. » Et là, Jésus montre Marguerite Marie le vrai tableau de ce qu'elle est sans la grâce de Dieu. Et alors, c'est beau, hein, il le fait en privé. Il ne le fait pas devant tout le monde. Il le fait en privé. Et là, Marguerite Marie va comprendre effectivement sa place d'être humble, la place de l'humilité. Donc, en parallèle de cela, eh bien, il y a l'effet inverse. Ça va être l'effet de la confession. Quand Marguerite Marie va se confesser, et donc elle va reconnaître humblement ce qu'elle est, eh bien là, elle va voir tout l'amour du bon Dieu. Donc, vous pouvez choisir soit la vanité dans votre manière de vous comporter, soit l'humilité. Moi, je vous conseille l'humilité parce que dans l'humilité, Dieu vous console. Dans la vanité, Dieu vous reprend. Quitte à faire, choisissez plutôt l'humilité. Et alors, dans la confession, elle donne quelques pistes pour la confession que je me permets de vous redonner. Comment se préparer à la confession ? Comme je me préparais à faire ma confession annuelle avec une grande anxiété pour trouver mes péchés, mon divin maître, vous êtes stressé de vos péchés aussi quand vous faites votre confession ? J'espère ne pas en oublier. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là, j'ai tellement peur d'en oublier. Bon. Mon divin maître me dit : pourquoi tu te tourmentes ? Fais ce qui est en ton pouvoir. Je suppléerai à ce qui manquera au reste. Vous voyez ? Moi, je préfère cet épisode-là que le précédent. Alors voilà, eh bien, Seigneur, ne soyez pas trop scrupuleux quand vous vous confessez. Voilà, préparez votre confession de bonne foi. Car, dit-il, Jésus dit, je ne demande rien tant dans ce sacrement qu'un cœur contrit et humilié, qui d'une volonté sincère de ne me plus déplaire, s'accuse sans déguisement, et pour lors je pardonne sans retardement, et de là il s'ensuit un parfait amendement. Vous voyez, Jésus dit, en fait, ce que j'attends, c'est que le gars, il arrive devant, que vous arriviez devant lui, dans une parfaite contrition en disant, bah, c'est ça, c'est sans détour, vous voyez, bah, c'est ça mon péché. Voilà, c'est ça l'humilité. C'est ça, et je le remets à toi, Seigneur, et eh bien, le Seigneur se plaît à vous pardonner sans retardement et vous donner un parfait amendement, c'est-à-dire vous donner la grâce de vivre cette conversion. Alors cela ne peut que nous encourager à rentrer dans ce chemin. Et alors Marguerite Marie, en fait, pendant la confession, elle va avoir une grâce, mais avoir du mal, c'est-à-dire que un de ses combats, c'est qu'elle croit qu'elle est toujours trompée, qu'au fond, tout ce qu'elle vit, ce n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi qui la trompe. Et alors quand elle va se confesser, eh bien, les confesseurs lui disent, mais non, mais laissez-vous aller à la grâce que Dieu vous donne. Et elle, c'est douloureux pour elle, parce qu'elle a du mal à croire à ce que disent les confesseurs. Voilà. Ma douleur était qu'au lieu de me retirer de la tromperie où je croyais être effectivement, il m'y renfonçait encore plus avant, tant mes confesseurs que les autres, en me disant de m'abandonner à la puissance de cet esprit et sans réserve m'y laisser conduire. Et que quand même il me rendrait un jouet du démon, comme je le pensais, il ne fallait pas laisser que de suivre ses mouvements. Alors, vous voyez, Marguerite Marie vit la grâce de Dieu, elle ne se comprend pas elle-même, elle croit qu'elle est trompée, alors il n'y a pas qu'elle-même, les sœurs vont l'aider à croire qu'elle se trompe. Et donc Marguerite Marie vient se confesser, les confesseurs disent « Mais non, allez, livrez-vous à la grâce de Dieu, n'ayez pas peur de la grâce de Dieu. » Et elle reste toute tremblante. Est-ce que je peux croire ce que le confesseur m'a dit ? Voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous quand vous confessez, quand le prêtre vous donne un conseil. Est-ce que souvent, ça peut être une difficulté pour nous, on sort de la confession, on se dit « Oui, mais au fond, Dieu ne m'a pas vraiment pardonné, Dieu ne peut pas m'aimer comme ça. » Vous voyez, rentrer dans cette grâce, cette confiance en la miséricorde. Troisième étape, après la confession, je fis donc ma confession annuelle. Donc on n'a pas le contenu de la confession de Marguerite Marie, mais on ne demande pas non plus le contenu de votre confession d'ailleurs. Voilà, ça reste dans le cœur de Dieu. Je fais ma confession annuelle, après lesquelles il me semblait me voir et sentir dépouillé et revêtu en même temps d'une robe blanche avec ces paroles « Voici la robe d'innocence dont je revêts ton âme, afin que tu ne vives plus que de la vie d'un homme-dieu, c'est-à-dire que tu vives comme ne vivant plus, mais me laisser vivre en toi. » Voilà, chaque grâce de confession est la grâce de retrouver ce vêtement de noces, ce vêtement du baptême que nous avons reçu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Eh bien, comme saint Paul, Marguerite Marie a crucifié la chair, donc c'est-à-dire la vie sans Dieu, le mot de la chair dans l'Écriture, c'est la vie sans Dieu, elle a crucifié la chair pour vivre de l'Esprit de Dieu. Elle le crucifie à la croix de Jésus. Bien, par ma confession, je laisse tout ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu pour rentrer dans cette vie de l'Esprit et recevoir ce vêtement nouveau. Alors voilà, dans ce chapitre-là, ce fondement aussi de notre vie, eh bien, comme j'aime bien le dire, souvent les chrétiens, on nous dit « mais vous n'êtes pas meilleurs que les autres », eh bien, on en est tout à fait conscient. Et on est justement dans cette humilité, on n'est pas dans une prétention à se présenter mieux que les autres. Au contraire, on sait très bien ce que l'on serait sans la grâce de Dieu, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en même temps, on reconnaît que grâce à la grâce de Dieu, ben, ça nous permet d'être un peu quelque chose quand même. Voyez, enfin, on sait qu'on n'est rien, mais on est tout avec lui, quoi. Voyez, voilà. On sait très bien qu'on serait bien pire si Dieu n'était pas là. Alors, demandons cette grâce avec Marguerite Marie de l'humilité qu'elle a eue si souvent. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Troisième aspect que j'aimerais évoquer aujourd'hui, après avoir l'humilité, alors mes numéros ne vont pas être très bons, pardon, mais donc j'ai évoqué 1, la sainteté, 2, l'humilité, 3, le combat dans lequel je vais rentrer maintenant, plusieurs combats que vit Marguerite Marie. Il y a 3 types de combats chez Marguerite Marie. Il y a le combat contre le démon, il y a le combat contre elle-même et il y a le combat pour la charité. Alors ça pourrait être 3 chapitres, mais je vais essayer de les rassembler. Alors peut-être pour vous rappeler, eh bien dans l'Apocalypse au chapitre 12, hein, vous voyez le démon qui combat contre la femme, et donc contre la Vierge Marie ou contre l'Église. Voilà, mais en tout cas, on aime bien comparer ce texte au démon qui vient tenter Marie. Et à la fin de ce texte, eh bien, la femme s'enfuit et le démon n'a pas eu prise, le dragon n'a pas eu prise sur la femme. Et il y a ce verset que je trouve intéressant pour tout le monde, pour nous tous. Eh bien, à la fin, on nous dit « Alors, furieux contre la femme, qu'il n'a pas réussi à atteindre, l'Immaculée Conception, Marie qui est sans péché, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. » Donc, le dragon n'atteint pas Marie et donc il va s'attaquer à ses enfants. Ses enfants, c'est qui? C'est vous et moi. Mais il y a une petite définition de ces enfants particulièrement. C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Alors vous pourriez dire, bon ben moi je vais arrêter de garder le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus, comme ça au moins je ne vais pas vivre de combat contre le dragon. Hein? Mais en fait, vous n'avez pas besoin de vivre de combat contre le dragon parce que vous êtes déjà dans sa gueule. Vous voyez, il vous a déjà pris. C'est pour ça que d'ailleurs Saint Ignace dit que quelqu'un qui vit un peu dans l'esprit du dragon, eh ben, le démon ne l'embête pas du tout, parce qu'il dit ben, « continue comme ça mon petit gars, t'es bien dans mes filets, surtout te débats pas, continuons, voilà, pas de problème ». Mais par contre, quand vous essayez de suivre les commandements de Dieu ou de posséder le témoignage de Jésus, ben, il n'est pas très content et donc ben, il peut travailler. Donc soyez pas surpris de cette vie du combat contre le démon, ça vaut pour toutes. Donc le combat spirituel, ça vaut pour tous. Et donc ça vaut particulièrement pour Marguerite Marie qui est appelée à cette belle mission de transmettre l'amour du cœur de Jésus et d'intercéder pour les âmes. Alors comme pour la confession, on pourrait distinguer le combat contre le démon en 3 parties. D'abord, il y a une partie lointaine. Si vous combattez contre le démon juste quand il est là, ça va mal se passer, quoi. Vous avez peu de chances de gagner. Et donc il faut se préparer en amont. Et la préparation lointaine, elle se fait notamment dans cette vie de prière. « Comme les plus grandes grâces que je recevais de sa bonté, de la bonté de Dieu, dit Marguerite Marie, étaient dans la Sainte Communion et la nuit, et surtout celle du jeudi au vendredi, que je recevais des faveurs inexplicables, il m'avertit donc une fois que Satan avait demandé de m'éprouver dans le creuset des contradictions et humiliations, tentations et déréliction, comme l'or dans la fournaise, et qui lui avait tout permis, à la réserve de l'impureté, mais qu'il ne voulait pas qu'il me donnât jamais aucune peine là-dessus, parce qu'il la haïssait si fort, qu'il ne lui avait jamais voulu permettre de l'en attaquer dans la moindre chose. » Donc Marguerite Marie a la grâce d'être préservée du combat sur la pureté. Ben, on n'a peut-être pas tous cette grâce-là, et on peut vraiment demander cette grâce comme Marguerite Marie, de pouvoir tenir bon dans ce combat. En tout cas, Marguerite Marie est libérée de ce combat, mais pas des autres combats et des tentations et des humiliations du démon. « Pour toutes les autres tentations, il me fallait être sur mes gardes, surtout celle d'orgueil, de désespoir, de gourmandise, de laquelle j'avais plus d'horreur que de la mort. » Et comment vivre ce combat? Comment se préparer? Eh bien, Jésus dit à Marguerite Marie, « Il m'assura il m'assura que je ne devais rien craindre, puisque Jésus serait comme un fort imprenable au-dedans de moi-même, qu'il combattrait pour moi et se rendrait le prix de mes victoires, et qu'il m'environnerait de sa puissance afin que je ne succombasse. Mais qu'il me fallait veiller continuellement sur tout l'extérieur et qu'il se réservait le soin de l'intérieur. Donc, la préparation extérieure, c'est vous préparer l'extérieur. Dans quel contexte est-ce que je me mets dans des contextes de péril dans lesquels je pourrais être plus fortement tenté? Comment je me préserve de cela, hein, et d'entendre aussi que le Seigneur est présent à l'intérieur. Voilà, le combat lointain, c'est d'abord de mettre le Seigneur en soi. Est-ce que le Seigneur, tu habites mon cœur? Comment je sens, bah tiens, en ce moment, que le Seigneur est moins présent dans ma vie? Bah, Seigneur, viens, je sais te remettre en moi-même. Après, deuxième étape, eh bien, une préparation plus proche. Voici que l'ennemi soudain va s'approcher d'elle. Voilà, on est au XVIIe siècle, hein, la présentation de l'ennemi, vous savez, les anciennes visions du dragon, là, avec sa queue, voilà, c'est un peu comme ça qu'elle voit les yeux étincelants, comme deux charbons, me grinçant des dents contre, et me dit « Maudite que tu es, je t'attraperai, et si je te peux une fois tenir à ma puissance, je te ferai bien sentir ce que je sais faire, je te nuirai partout. » Et quoi qu'il me fît plusieurs autres menaces, je n'appréhendais pourtant rien, tant je me sentais fortifié au-dedans de moi-même, et me semblait même que je n'aurais pas craint toutes les fureurs de l'enfer pour la grande force que je sentais au-dedans de moi-même. Qui, avec la vertu d'un petit crucifix, auquel mon souverain libérateur avait donné la force d'éloigner toutes ces fureurs infernales de moi, je le portais toujours sur mon cœur, la nuit et le jour, et j'en recevais beaucoup de secours. Voilà, donc Marguerite Marie a la grâce de vivre dans la paix ses combats, hein, et c'est une grâce que l'on peut demander. Souvent on dit à mon père, j'ai beaucoup de combats, priez pour que j'ai pas de combats. Je veux bien prier pour que vous n'ayez pas de combat, mais je suis pas sûr que... Je préfère prier pour que vous gagniez vos combats, ou que vous viviez dans la paix vos combats. Mais prier pour qu'il n'y ait pas de combat, je crois que ça, c'est un leurre. Alors, de temps en temps, le Seigneur nous donne des grâces d'être plus paisible, d'avoir moins de combats, mais pas tout le temps. Alors, une fois, Marguerite Marie, hein, va être tentée sur la pureté, et une seule fois dans sa vie, elle dit, c'est un moment où sa sœur lui dit, mettez-vous à la place du roi. Prenez la place du roi. Et elle prit la place du roi. Elle dit, elle a vécu des combats énormes et des tentations d'impureté qu'il me semblait être déjà dans l'enfer. Et elle dit ça, et ça c'est intéressant d'entendre ça. Je soutins cette peine plusieurs heures de suite et elle me dura jusqu'à ce que ma supérieure m'eût enlevé cette obéissance en me disant que je ne me tiendrai plus en la personne de notre roi. Alors peut-être que pas mal de nos combats sont peut-être liés au fait qu'on se prenne un peu pour le roi. Et donc c'est peut-être un lieu de conversion. Est-ce qu'on se prend pour le roi? Voilà, et de ne pas essayer de se mettre à cette place-là. Et deuxième élément dans ce texte que Marguerite Marie nous donne, c'est elle lutta plusieurs heures durant. Ben nous, au bout de 5 minutes, je me suis retenu, mais bon, je me lâche maintenant, hein, parce que, vous voyez, est-ce qu'on tient plusieurs heures durant dans nos combats? Ça, c'est une grâce qu'on peut demander, hein, cette force intérieure. Et une fois, Marguerite Marie aura cette parole à Jésus, hein, « Vous êtes ma force et mon soutien. » Voilà. Dans nos combats, peut-être reprendre ces mots de Marguerite Marie, « Vous êtes ma force et mon soutien. » Quelles sont les tentations de Marguerite Marie? D'abord, il y a une tentation de découragement, hein, de dire qu'elle n'y arrivera pas. D'autres tentations, eh bien, c'est les combats au niveau dans les conflits dans la communauté, dans les désaccords, le fait d'amplifier les désaccords. Et puis, toujours cette question du doute, des doutes dans ce qu'elle vit. Voilà, la faiblesse de Marguerite Marie, c'est elle-même. Donc, une fois que vous connaissez vos faiblesses, vous dites, bon, ben, en fait, normalement, il devrait m'attaquer par là. Donc, la faiblesse de Marguerite Marie, c'est de se défier d'elle-même, et donc, il appuie toujours là-dessus. Alors, les sœurs, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, comme Jésus, hein, à qui on dit qu'il libère les démons par Belzéboul, eh bien, Marguerite Marie, je vous l'ai dit hier, hein, Jésus veut l'unir à sa vie souffrante. Pas à pas, elle qui voulait tellement la souffrance, elle va y arriver. Et cette souffrance, au fond, ça ne va pas être dans des grandes douleurs physiques extrêmes. La souffrance, elle va être unie comme Jésus, c'est-à-dire qu'elle va rejeter par les siens. Marguerite Marie va être rejetée par les siennes. Et notamment les sœurs qui vont commencer à lui dire que c'était le diable qui était l'auteur de tout ce qui se passait en elle et qu'il me perdrait si je ne prenais garde par ses ruses et désillusions. Ce fut un terrible coup pour moi, dit Marguerite Marie, qui avait eu toute ma vie crainte d'être trompée et de tromper les autres sans pourtant le vouloir. Ce qui me faisait beaucoup pleurer, car je ne pouvais en aucune façon me retirer de la puissance de cet esprit souverain. Jésus viendra la rassurer. Mais mon souverain se jouait de tout cela et me rassurait si fort qu'il dissipait toutes mes craintes au premier abord en disant ces mots que nous pouvons entendre pour nous-mêmes lorsque nous pouvons avoir toutes ces oppositions autour de nous. Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant ? Pourrait-il bien te laisser périr en t'abandonnant à tes ennemis après m'être rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de l'amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et perpétuelle. Pour plus grande assurance, dis-moi quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Mais pourquoi combats-tu contre moi, qui suis ton seul vrai et unique ami ? Donc Marguerite Marie doute d'elle-même, ses sœurs doutent d'elles-mêmes, et donc Marguerite Marie est troublée, et elle se dit, mais en fait, tout ce que je vis, en fait, c'est l'illusion, c'est le démon qui me trompe et tout ça. Et le Seigneur vient la consoler avec ses paroles, « Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant ?» Et ça, peut-être chacun d'entre nous pouvons demander cette grâce. Nous avons le désir de suivre le Seigneur, nous voulons le suivre de tous nos cœurs. Effectivement, nous vivons ces combats. Eh bien, nous demandons aussi cette grâce de l'humilité et écoutons ces paroles de Jésus pour nous-mêmes. « Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant ?» Jésus qui est mort pour vous, qui a livré sa vie pour vous, ne voudrait-il pas maintenant que vous êtes à lui, que vous êtes chrétien, que vous marchez à sa suite, vous abandonner au premier carrefour ? Il va tout faire pour vous garder sur son cœur, comme il le dit pour Marguerite Marie. Alors Marguerite Marie a la grâce, après, de vivre ses oppositions dans la paix, et on peut demander cette grâce-là. Parmi les peines et craintes que je souffrais, je sentais toujours mon cœur dans une paix inaltérable. Alors peut-être pour terminer ce point sur le combat spirituel, le combat contre le démon, eh bien nous pouvons reprendre ce petit refrain. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia, Jéricho va tomber. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia, Jéricho va tomber. Je prendrai un point maintenant sur l'exercice de la charité. C'est une mission que Marguerite Marie va recevoir au sein de sa communauté. Elle va être appelée à exhorter ses sœurs. Alors Marguerite Marie qui voulait être cachée, qui ne veut surtout pas qu'on parle d'elle, et bien Jésus veut rétablir en fait cette vocation de sainteté de justice. Il veut la rétablir dans la propre communauté de Marguerite Marie. Au fond, il dit, il manque la charité. Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. Voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et au fond, Jésus veut que ça se convertisse un peu dans le monastère. Mais Marguerite Marie a vraiment pas envie de faire cette mission-là. Et donc, elle va user de tous les stratagèmes, et notamment de l'exercice de l'obéissance pour ne pas le faire. Donc Jésus concrètement dit à Marguerite Marie, tu vois, j'aimerais que tu reprennes quelques sœurs pour qu'elles s'arrêtent de critiquer, qu'on rentre vraiment dans la charité, qu'on soit dans l'amour les uns pour les autres. Et Marguerite me dit, non, mais ça, je ne veux pas. Je veux bien manger, Jésus, tout le fromage que tu veux. Ceux qui étaient là hier comprennent, mais ça, je ne veux pas le faire. Tout frémit en moi. Alors, Jésus dit, il faut que tu rendes sa victime d'immolation. Cette immolation, c'est justement que tu ailles faire cet acte d'exhorter tes sœurs. C'est par toi que ça va se passer. Avec son entremise, tu détournes les châtiments que la divine justice de mon père, armée de colère, veut exercer sur cette communauté religieuse pour la reprendre et la corriger en son juste courroux. Tout en frémit en moi et n'eut pas le courage de me sacrifier. Mais je dis que n'étant pas à moi, je ne pouvais le faire sans le consentement d'obéissance. Seigneur, tu comprends, mais tu veux que je fasse ça, mais tu sais que je dois obéir. je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'autorisation de ma supérieure. Donc je ne vais pas pouvoir faire ce que tu me demandes. Bon argument, très bon argument. Mais la crainte que j'avais qu'on me le fît faire me fit négliger de le dire. Du coup, comme je dois le faire par obéissance et que je n'ai pas envie de le faire, je ne vais pas dire à ma supérieure, Jésus me demande de faire ça. Non. Ça va ma sœur, très bien, tout va bien. Jésus demande quelque chose? Non, non, il ne demande rien. Enfin, il ne dit pas rien. Non, ce n'est pas vrai, parce que ça serait un mensonge. En fait, elle ne le dit pas. Donc, du coup, ce n'est pas un mensonge. C'est juste une omission. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, il voudrait la charité dans la communauté. Bon. Mais, comme elle ne dit rien, Jésus la poursuit. Il me donne point de repos. Marguerite Marie fond en larmes, en me voyant enfin contrainte de le dire à ma supérieure, laquelle, voyant ma peine, ma pauvre petite sœur, qu'est-ce que vous endurez dans votre cœur, c'est dur, hein. Eh bien, elle me dit de me sacrifier à tout ce qu'il désirait de moi sans réserve. Ben, puisque vous souffrez tant, vous allez faire ce qu'il vous dit. Mais mon Dieu, ce fut alors que ma peine se redoubla encore plus fort, car je n'avais point le courage de dire oui, et je résistais toujours. Voilà, donc Marguerite Marie n'arrive pas à le faire. C'est un peu comme son assiette de fromage, sauf que c'est un autre niveau, là. Et Jésus lui dit, « Il t'est bien dur de regimber contre les traits de ma justice, mais puisque tu m'as tant fait de résistance pour éviter les humiliations qu'il te conviendrait de s'ouvrir par ce sacrifice, c'est sûr, quand vous dites à une sœur, « Écoute, ma petite sœur, je crois que Jésus veut que tu te convertisses », la réaction n'est pas toujours, oh, « Tu as tout à fait raison, merci ma sœur de ta parole. Je la reçois avec tellement de douceur et délicatesse, je sens dans mon cœur qu'il faut que je me convertisse. » Bon, ben voilà, comme tu as eu peur de ce que tu allais prendre dans la figure, dit Jésus, « Eh bien, je vais te la donner au double. » Ce que tu devais faire dans le privé, tu vas le faire devant tout le monde. Oh. Ah mon Dieu. Devant toute la communauté. Alors donc ça lutte, hein. Ça lutte. Et donc elle va voir sa supérieure, mais comme c'était après l'oraison du soir, elle dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec les autres, et puis on est dans le grand silence, on ne peut pas y aller. Normalement, les sœurs, chaque jour, encore, elles le font encore, et je crois, à midi, ils ont un temps, un ou deux temps, je ne sais pas, où elles se mettent entre communautés, disent, ben voilà, les sœurs, je vous demande pardon parce que j'ai eu une négligence là-dessus, ça, je n'ai pas fait ça, ou voilà, on se remet soi. Et puis ensuite, il y a une remise de Seigneur, je m'offre aussi pour ce point de conversion, il me semble qu'on doit se convertir là-dessus. Donc, vous imaginez, Marguerite Marie, toutes les sœurs sont là, tranquillement installées, et donc Marguerite Marie se met à genoux et dit, ben, je m'offre à la justice de Dieu pour la conversion de notre communauté à la charité. Bon. Et donc, Marguerite Marie, finalement, ben, va pousser et va aller jusque-là. Alors, peut-être que ça peut vous sembler un peu extraordinaire, mais au fond, est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent arriver dans toutes nos vies, hein, quelles sont une oppression, quand on dit « elle était pressée intérieurement », et ben, quelles sont vos oppressions intérieures d'échanger avec votre époux, votre épouse, avec votre collègue ? Ce combat, ce désir de fuir, de dire « non, 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 je ne veux pas évoquer ce point-là, parce que sinon, ça va encore faire des étincelles ». Est-ce que nous avons réussi à oser le dialogue et à recueillir aussi le fruit de la paix, puisque c'est ça qui va être le fruit? Eh bien, le Seigneur lui dit, la paix est rétablie dans cette communauté. Et le Seigneur en est content. Voilà, donc osons nous aussi peut-être ces combats intérieurs, ces combats pour la charité, ces combats de communion et de dialogue. Hein. Nous sommes invités à être un signe de la charité du Christ. Demandons cette grâce de cette charité les uns pour les autres. Et alors, c'est vrai que c'est de moins bon goût, mais ce thème, ça s'appelle la correction fraternelle, qui n'est pas de l'ordre de la critique. La critique, c'est de parler de mon frère. Ah, bah, tu sais, ma sœur, là, dans la communauté, bah, là, vraiment, il faut qu'elle se convertisse. Et puis, Jésus, il n'est pas content, d'ailleurs. Et puis, vraiment, ça n'aide pas trop la sœur. La correction fraternelle, c'est d'aller voir son frère. Voilà, je vais voir mon frère et je lui dis, mon petit frère, il me semble que Jésus me demande de te dire ça, ou plutôt, je sens ça dans mon cœur. Alors là, vous ferez tout le travail de communication non violente et tout, pour essayer de transmettre tout ça, pour que ça passera le mieux possible, mais ce n'est pas le lieu de travailler ça. Voilà. Je passe pour un autre sujet, mais on peut prendre un petit refrain pour rendre grâce pour cela. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu... d'amour. Alors, il me reste peu de temps. Nous sommes ici à la chapelle de la Colombière et donc je vais évoquer eh bien, le cadeau que Marguerite Marie va faire, que Jésus va faire à Marguerite Marie dans la présence de Saint Claude. Et donc, le thème de ce point, ce pourrait être se confier, apprendre à se confier. Donc, Marguerite Marie, lorsqu'elle se confie en général au prêtre et quand, vu tout ce qu'elle vit dans son cœur, on la présente à d'autres personnes, comme elle l'écrit dans son récit. On me fit parler à quelques personnes de doctrine, des gens qui ont un peu d'expérience sur ce qui se passe dans mon cœur. Et le fruit de ce temps, c'est bien loin de me rassurer dans ma voix, ils augmentaient encore plus mes peines. Ça nous invite à l'humilité pour nous qui accompagnons les personnes. Et jusqu'à temps, dit-elle, que notre Seigneur renvoya ici le révérend père La Colombière, auquel j'avais déjà parlé dans mon commencement. Donc elle fait allusion un peu plus tôt dans cette référence au père La Colombière. Eh bien, elle dit notamment que le Seigneur me promit quelque temps après m'être consacré à lui qu'il m'enverrait un sien serviteur auquel il voulait que je manifestasse selon l'intelligence et qu'il m'en donnerait tous les trésors et les secrets de son sacré cœur qu'il m'avait confié parce qu'il me l'envoyait pour me rassurer dans sa voie et pour lui départir de grandes grâces de son sacré cœur qui les répandrait abondamment dans nos entretiens. Alors comme je l'évoquais hier dans le parcours en venant ici dans cette chapelle, voilà, c'est celui qui n'a pas d'apparition qui va diriger celle qui en a. Et en même temps, vous voyez tout le trouble qu'elle a d'être trompée. Cette attitude-là, on la retrouve, on la comprend quand on regarde un peu l'Écriture, notamment Isaïe. Hein, lorsqu'il voit Dieu dans la gloire, vous voyez, nul ne peut voir Dieu sans mourir, Isaïe 6. Il entend « Saint, Saint, Saint le Seigneur » que nous reprenons à chaque messe avant que le Christ vienne sur l'autel dans son corps et son sang. Et donc Isaïe qui voit ça est troublé et dit « Mais je ne peux pas voir Dieu sans vivre ». Et donc comment vivre ces grâces spéciales? Vous le retrouvez aussi dans le livre des Juges avec Manoah et sa femme qui vont avoir la vision d'un ange pour leur annoncer la naissance de Samson. Et heureusement qu'il y a le bon sens de la femme de Manoah parce que Manoah se dit « Mais moi je vais mourir, enfin on a vu un ange, on va mourir ». Manoah et la femme lui disent bah, « Écoute, si on a eu l'apparition d'un ange pour qu'on ait un enfant, il veut qu'on ait un enfant, il ne va pas nous faire mourir tout de suite. Allez, avançons !» Voyez, mais voilà, comment vivre autour du Seigneur? Donc le Seigneur lui envoie Saint Claude. « Lorsque ce saint homme vint ici, comme il parlait à la communauté, j'entendis intérieurement ces paroles, « Voici celui que je t'envoie, ce que je reconnus bientôt dans la première confession des quatre temps, car sans que nous nous fussions jamais vus ni parlés, il me retint fort longtemps et me parlait comme s'il eût compris ce qui se passait en moi. » Mais, on ne changera pas Marguerite Marie, je ne voulus lui faire aucune ouverture de cœur cette fois-là. « Voilà celui que je t'envoie, je vais me confesser, rien, pas un mot. » Elle met du temps, hein. Elle ne se change pas. Hein. Alors peut-être c'est un appel pour nous aussi, hein. Est-ce que nous rentrons dans cette confiance? Je pense que c'est assez rare, notamment confiance dans vos pasteurs qui rejoignent vos communautés. On se confesserait bien à tout le monde, mais pas au curé de la paroisse quand même. Hein. S'il vous est donné comme pasteur, c'est justement pour vous conduire et vous accompagner. Donc n'hésitez pas à aller aussi... profiter le pasteur que Dieu vous envoie. Alors après, il y a un petit dialogue délicieux entre Marguerite Marie et Claude. Donc Marguerite Marie, elle a du mal à se livrer. Et donc Claude va trouver les mots pour l'aider. Peu de temps après, Claude revint. Et encore que je connaissais être la volonté de Dieu, que je devais lui parler, je ne laissais pas d'y sentir des répugnances effroyables lorsqu'il fallut y aller. Et je lui dis ça. En fait, j'ai beaucoup de répugnances à vous parler. J'ai vraiment pas envie de le faire. Qu'est-ce que répond Claude? Ben, je suis très heureux que je sois pour vous l'occasion de vous faire un sacrifice à Dieu. Ah, il a trouvé les mots pour plaire à Marguerite Marie. Ça serait l'occasion de faire un sacrifice à Dieu. Ah, ben alors du coup, je vais pouvoir vous livrer. Oui. Il est fin, ce Saint-Claude. Et alors, sans peine ni façon, je lui ouvris mon cœur et je lui découvris le fond de mon âme, tant le mal que le bien. Sur quoi il me donna de très grandes consolations et m'assurant qu'il n'y avait rien à craindre en la conduite de cet esprit, d'autant qu'il me retirait point de l'obéissance que je devais suivre ses mouvements en lui abandonnant tout mon être pour me sacrifier et immoler selon son bon plaisir. admirant la grande bonté de notre Dieu, de ne s'être point rebuté parmi tant de résistance, il m'a appris à estimer les dons de Dieu et à recevoir avec respect et humilité les fréquentes communications et familiers entretiens dont il me gratifiait, dont je devais être dans de continuelles actions de grâce envers une si grande bonté. Et comme je lui fais entendre ce que ce souverain de mon âme poursuivait de si près, sans exception de temps ni de lieu, que je ne pouvais prier vocalement, à quoi je me faisais de si grande violence, que j'en demeurais quelquefois la bouche ouverte sans pouvoir prononcer aucune parole, surtout en disant le rosaire, ce qu'il me dit de ne plus faire, que je me devais contenter de ce qui m'était d'obligation, y ajoutant le chapelet lorsque je le pourrais. Et lui ayant dit quelque chose des plus spéciales caresses et unions d'amour que je recevais de ce bien-aimé de mon âme, et que je ne décris pas ici, il me dit que j'avais grand sujet en tout cela de m'humilier, et lui d'admirer les grandes miséricordes de Dieu à mon égard. Vous voyez un peu cet état de ces échanges. Voilà. Marguerite Marie, qui a eu tellement de doutes sur elle-même, qui craint aussi de faire ce que le Seigneur lui demande, voilà, va trouver quelqu'un pour l'aider à rentrer paisiblement dans cette vocation et à déployer tous les talents que Dieu lui donne. Eh bien, prions aussi pour que chacun d'entre nous, nous puissions être dans cette paix, être dans la confiance dans ce que nous recevons de Dieu, de pouvoir transmettre cela, qu'il nous donne peut-être aussi une personne qui pourra nous aider à avancer dans ce chemin. Car ton amour nous donne la vie, car ton amour nous donne la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour nous donne la vie. Alors, eh bien, la mission de Marguerite Marie va se déployer grâce à l'aide de Saint Claude. Marguerite Marie va donc recevoir ces différentes apparitions, appelée à transmettre la beauté du message du cœur de Jésus, sur lequel je ne suis pas beaucoup revenu dans ces jours. Et Jésus va lui demander plusieurs actions pour le faire. D'abord, il va lui demander d'écrire son autobiographie, de transmettre ce message. Il va aussi lui demander de fêter, d'entrer dans cette fête du Sacré-Cœur. Il va demander aussi de transmettre cela, notamment dans la mission qu'elle va recevoir, d'être supérieure des novices, d'accompagner les jeunes femmes. Au début, elle dit « Mais Seigneur, tu m'as demandé la fête du Sacré-Cœur et je ne sais pas très bien comment je vais réussir à la déployer. » Et puis alors, un jour, ces novices lui disent « Mais... ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau à notre supérieur des novices, c'est la Sainte Marguerite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la Sainte Marguerite ?» Et alors, Marguerite Marie dit, vous pourriez faire un petit autel où on honorerait le cœur de Jésus, et puis on ferait une fête au cœur de Jésus, puis on offrirait nos cœurs au cœur de Jésus. Ça, ce serait un beau cadeau pour ma fête. Alors, du coup, elle trouve un moyen de commencer à répandre cette dévotion au cœur de Jésus. Et puis, un autre lieu sur lequel le Seigneur va lui demander, d'agir, c'est cette communion, l'appel à communier, à le recevoir dans l'Eucharistie, le recevoir fréquemment. Jésus va lui demander aussi de reposer son cœur. Vous voyez, non pas que nous reposions sur le cœur de Jésus, mais Jésus dit, je suis un peu fatigué, et j'ai besoin de me reposer, et je cherche des cœurs où me reposer. Voilà, des fois, on voit Jésus dans la barque, dans l'Évangile, qui dort. La petite Thérèse réutilisera ce thème-là, et dit, Jésus dort dans mon cœur, et je laisse dormir, parce qu'il a tellement de missions à droite, à gauche, que quand il vient chez moi, je dis « Repose-toi, Seigneur. Tu n'es pas obligé de me dire plein de choses. Reste là tranquillement. Voilà. » Et voilà, donc Jésus lui demande ça. « Ma fille, me veux-tu bien donner ton cœur pour faire reposer mon amour souffrant que tout le monde méprise ?»« Seigneur, viens dans mon cœur. Moi, je t'aime. Viens te reposer sur mon cœur. » Et c'est là que Jésus demande à Marguerite Marie, lui propose, est-ce qu'elle peut être ce sanctuaire, cet autel, sur lequel il veut que son cœur... eh bien, puisse s'offrir au Père. Et je me permets de reciter ce texte parce que ce qu'on vit avec la chasse qui est placée devant l'autel en ces jours, jusqu'à tout à l'heure, eh bien, c'est un peu le signe aussi de ce que Jésus dit à Marguerite Marie. « Sais-tu bien à quelle fin je te donne mes grâces si abondamment ? C'est pour te rendre comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement et ton cœur est comme un autel sacré où rien de souillé ne touche. l'ayant choisi pour offrir à mon Père éternel des sacrifices ardents, pour apaiser sa justice et lui rendre une gloire infinie par l'offrande que tu lui feras de moi-même dans ses sacrifices, y unissant celui de ton être pour honorer le mien. » Vous voyez, donc, l'autel, c'est Marguerite Marie. L'offrande, c'est pas Marguerite Marie. L'offrande, c'est le cœur de Jésus. Jésus demande à Marguerite Marie, « Est-ce que tu veux bien offrir mon cœur au Père ?» C'est ce qu'on fait à la messe, c'est ce qu'on fait à chaque Eucharistie. « Par lui et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, nous offrons le corps et le sang de Jésus au Père. » Et donc Jésus demande à Marguerite Marie, « Est-ce que tu peux faire ça, toi, dans ton cœur ? Que ton cœur, ton être, soit le lieu où tu m'offres au Père. » Et puis il lui dit, « Et est-ce que tu pourras aussi joindre à cette offrande, eh bien, ton propre cœur ?» Justement, lorsque nous disons le « par lui, avec lui et en lui », nous nous offrons nous aussi avec le Père à chaque Eucharistie. J'avoue, dit Marguerite Marie, j'avoue que depuis ce temps, je sentais dans mon cœur un feu si ardent et si violent que j'aurais voulu le communiquer à toutes les créatures afin que mon Dieu fût aimé. En demeurant dans cet état, mon occupation était de faire ce que mon divin maître m'avait ordonné. Pour cela, je me prosternais la face contre terre afin que l'offrant à son Père éternel, m'abîmant dans mon néant, pour rendre hommage à sa grandeur. Voilà, nous arrivons au sommet, au cœur de la vocation de Marguerite Marie. Ce cœur brûle en moi et j'ai vraiment tellement un désir que j'aimerais tellement que tous les hommes puissent découvrir ce feu d'amour. Et nous ne sommes plus dans un état, nous ne sommes plus au noviciat, nous ne sommes plus dans un premier désir d'être avec le Seigneur. Il y a une ouverture universelle de l'expérience qu'elle vit. Et c'est bien cela qu'elle demande et ce que l'Église nous donne en nous donnant Marguerite Marie comme exemple et en nous donnant la fête du Sacré-Cœur. On peut être sûr, sûrement, qu'aujourd'hui, Marguerite Marie continue à avoir ce désir profond. J'aimerais que l'expérience que j'ai faite, eh bien, vous puissiez la faire vous aussi, que votre cœur brûle de ce même amour, cette même intensité que le Seigneur a touché mon cœur. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Il y aurait d'autres thèmes à déployer, notamment cette mission d'intercession. Et cette mission d'intercession, elle la continue encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Depuis le Seigneur. Et puis ici, peut-être pour terminer, puisque nous sommes ici, nous voyons les anges, et que tout à l'heure nous irons à la cour des séraphins, eh bien, terminons par cet appel à la louange et à l'action de grâce, avec ces mots que ces anges vont lui donner. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit. Tout à l'heure, nous passerons dans ce petit couloir, ce tout petit couloir, la cour des séraphins. Eh bien, c'est là que Marguerite Marie, alors qu'elle travaille dans le jardin, entend ses archanges, ses séraphins, ses chérubins chanter ses louanges de Dieu et nous inviter à cela. Alors, je terminerai en prenant cette parole, cette prière de Marguerite Marie. « Je vous adore au Sacré-Cœur de Jésus avec les anges, pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime au tout aimable Cœur de Jésus avec les séraphins, pour moi et pour tous ceux qui ne vous aiment. Je vous glorifie au divin cœur de Jésus avec les chérubins, pour tous ceux qui ne vous glorifient pas. Je vous demande pardon au cœur de Jésus plein de bonté avec les archanges, pour moi et pour tous ceux qui vous ont offensés et qui vous méprisent. Ô mille et mille fois, je vous donne mon cœur par l'entremise de ma bonne mère, la très sainte Vierge, au très sacré, divin et adorable cœur de Jésus, auquel je me donne et me consacre toutes sans réserve. Je ne vous ai pas fait l'omission des passages compliqués de Sainte Marguerite Marie. J'ai peut-être fait le choix d'ailleurs de les traiter davantage que les moments de grâce et de consolation de Marguerite Marie. Mais l'enjeu était pour vous aussi dans ces trois temps. Essayer de vous montrer que le vocabulaire de Marguerite Marie, il faut savoir le dépasser, aller plus loin. Voir aussi comment nos petites choses peuvent avoir des mots extraordinaires, qu'un sacrifice, ce n'est pas d'abord une grande chose. Voilà, que l'immolation, c'est l'offrande de notre vie, tout simplement. C'est la charité d'aller voir nos frères et sœurs. Et qu'au fond, dans notre vie toute simple, eh bien, nous pouvons vivre aussi, et parce que la vie de Marguerite Marie était toute simple, eh bien, vivre cette grandeur de la mission du Seigneur. Voilà, et que nous puissions être à son tour et par son intercession, les apôtres de son cœur. Eh bien, vous n'hésiterez pas à aller chercher chez Marguerite Marie d'autres textes pour y voir encore toute la beauté de sa mission. Je vous remercie.